L'effrayante aventure, deuxième partie, chapitre 6, la revanche du nouvelliste. À vrai dire, Paris, pour employer une expression familière, n'en menait pas large, d'autant que de nouveaux phénomènes étaient survenus. La nuit précédente, on avait vu des lueurs singulières se dégager de l'appareil qui s'enfouissait à chaque instant davantage et d'où il semblait qu'une intarissable source électrique lança de continuelles effluves. Les journaux faisaient rage. Naturellement, les feuilles hostiles au progrès clamaient à la faillite de la science. Que faisait cette commission qui comportait dans son sein toutes nos notoriétés académiques et qui siégeait en permanence? En fait, il semblait que les discussions dégénéraient en papotages incohérents et inutiles. L'illustre monsieur Verloret, le roi de l'aviation, comme on l'avait surnommé depuis son invention du parachute à roulettes, avait seul émis un avis assez sensé pour rallier tous les suffrages. Selon lui, l'appareil de Ménilmontant était une sorte d'hélicoptère basé sur le principe exposé en 1784 par Launay et Bienvenue dans l'Académie des sciences et que renouvela Ponneau en 1870 en utilisant le ressort à caoutchouc. Il rappelait ensuite les magnifiques expériences de M. Marais avec ses insectes mécaniques. Tout indiquait qu'on se trouvait en présence d'un appareil de cette nature et où la démonstration de cette hypothèse s'affirmait dans les palettes d'hélices qui avaient été découvertes dans le terrain vague. Ce premier point semblant acquis, M. Verloret passait à la question du moteur dont la puissance lui paraissait être énorme et qui très probablement était actionné par l'électricité. « Soit, répliquait M. Allavoine, le génial régénérateur de l'automobilisme. Ceci est un fait constaté, mais il ne faut pas être grand clair pour formuler une hypothèse que nul ne songe à combattre. Moteur électrique, fort bien. Mais comment se peut-il que le moteur ne soit pas encore épuisé? Comment expliquer son action continue qui, à l'heure actuelle, s'exerce même sur le terrain dans lequel l'appareil menace de disparaître, comme si un mécanisme invisible agissait en manière de perforation? Qui de nous connaît une pile qui est un effet perpétuel avec une pareille puissance? L'explication de l'honorable M. Verloret n'est qu'une question qui s'ajoute à une autre question. Électrique, d'accord, mais quelle est la source de cette électricité? Comment pouvons-nous tarir cette source? C'est pour résoudre ce problème que nous sommes ici, et il ne me semble pas que nous ayons fait encore le moindre pas vers sa solution. » Sur cette constatation pessimiste, la discussion s'était envenimée et les observations aigres douces avaient corsé outre mesure les argumentations qui dégénérèrent bien vite en querelles personnelles. On vit même deux de ces illustres chauves prêts à se prendre à ce qui pouvait leur rester de cheveux. Le grave journal Le Temps, ayant paru à 5 heures, ne pouvait s'empêcher, en donnant un compte-rendu humoristique de cette séance mouvementée, de terminer son spirituel article par la phrase proverbiale « Et voilà pourquoi votre fille est muette !» Paris eut bien voulu s'égayer, mais en vérité une étrange inquiétude régnait. Un véritable malaise serrait toutes les poitrines et les plaisanteries se figeaient sur les lèvres. Certes, les terrasses des cafés étaient pleines, mais il n'y régnait pas cette insouciance du bon aloi qui fait si légère et si douce l'atmosphère de notre pays. Les causeurs se taisaient soudain, comme s'ils avaient entendu, là-bas, on ne sait où, quelques rumeurs menaçantes. C'était autre chose qu'au jour du siège de Paris. Le caractère mystérieux, inexplicable de l'événement réveillait au fond des âmes une sorte de mysticisme apeuré. Il subsiste en chacun de nous un sentiment de défiance contre le surnaturel. Le reporter parut le premier vers 6 heures du soir. Il était prolixe en détails sur les incidents qui avaient marqué dans la journée le travail lent mais inarrêté qui semblait s'opérer dans l'appareil mystérieux et aussi dans le terrain où il s'enfouissait. Bien entendu, la fameuse commission était vitupérée à souhait. Nos savants étaient habillés, comme on dit, de papier à ciliards, et ces critiques virulentes n'étaient pas faites pour rassurer le public. les Parisiens avaient supporté beaucoup plus gaillardement le passage de la comète de Halley, qui finalement ne leur avait donné que le spectacle d'une magnifique aurore boréale. Ici, le danger semblait plus proche, plus tangible en quelque sorte. Chacun donnait son idée, toujours impraticable, sur les moyens d'en finir. Il fallait amener du canon et pulvériser l'appareil, ou bien apporter des tonnes de matériaux pour l'ensevelir. Soit, mais qui pouvait affirmer que le choc d'un obus, que l'écrasement sous des pierres ou du sable, n'amènerait pas une explosion épouvantable? Le reporter n'eut aucun succès, et même comme il avait affecté à la fin de son article de prendre un ton de plaisanterie goguenarde, il y eut dans la foule un mouvement d'irritation qui se manifesta par les pires violences contre le papier innocent dont on fit un auto-da-fé au carrefour Montmartre. Comme le nouvelliste était un peu en retard, des groupes compacts stationnaient devant la maison, toute peinte en vert cru, que le journal a élevée au coin de la rue Drouot. C'étaient des cris, de véritables vociférations. On ne sait quels caprices peuvent secouer les foules. Déjà, des enragés se jetaient sur les cadres de verre où d'ordinaire s'affichait le journal et les brisaient à coups de canne. On levait les poings vers l'énorme transparent qui, à la hauteur du deuxième étage, servait d'ordinaire à afficher les nouvelles sensationnelles et qui restait immaculé. Tout à coup, un éclair de magnésium illumina la façade. Il était 7h30 et le jour baissait. En même temps, toutes les lampes électriques s'allumèrent et de larges lettres noires apparurent sur le fond blanc du transparent. Poussant des exclamations frénétiques, la foule lut « Sauvé ! Le mystère est connu ! Tout danger sera conjuré cette nuit même. Dans un quart d'heure, le nouvelliste dira toute la vérité. Coxward était bien Coxward. » Et ce fut alors sur le boulevard, au moment où parurent les porteurs, une véritable émeute dans laquelle, une fois de plus, apparut la sauvagerie atavique. On s'arracha littéralement les journaux, on se battit, des paquets entiers jonchaient le sol, sur lequel se ruaient les gens, les déchirant de leurs ongles impatients. Mais qu'importait aux porteurs grassement payés, au journal lui-même qui reconquérait du coup toute sa popularité et portait aux reporters un coup d'assommage dont il se relèverait difficilement. C'était d'ailleurs pour le lui mieux asséné que le nouvelliste avait retardé son apparition, quoiqu'il fût nanti depuis 3 heures de la dépêche que la bergère lui avait adressée avant son départ de Londres et qui figurait en gros caractères en tête du numéro. Elle était ainsi conçue. « J'ai découvert la clé du mystère. L'appareil en question est un engin d'aviation mu par une pile de nouvelles inventions et d'une incroyable énergie. L'inventeur, qui se nomme Sir Hazel Random, part à l'instant pour Paris, où nous arriverons dans la soirée accompagné de Monsieur Bobby, le détective anglais qui fut si fort vilipendé par certains de nos confrères et qui, en reconnaissant le boxeur Coxward dans le mort de l'obélisque, disait l'exacte vérité. Coxward était venu en 1 heure de Londres à Paris par l'appareil de Sir Random qu'il a baptisé du nom de Vril Yogir. Toutes les explications, toutes preuves seront données par l'inventeur qui comparaîtra ce soir même devant la commission scientifique si elle daigne se réunir. 1 heure après, l'appareil aura été neutralisé. Donc, plus d'inquiétude. Nul danger ne menace Paris. » Et après un blanc d'un demi-centimètre, une nouvelle dépêche. « Serons à Paris à 9h15. » Signé La Bergère.